Radio Jeune Actu, l'actu tant attendu.
Décrypter.
Transmettre.
Comprendre.
Un micro, des ados, de l'info.
Je vais passer maintenant aux tendances et aux ruptures. Donc, comme la mondialisation et la maritimisation ne sont pas figées, elles évoluent en permanence. Et donc, il est essentiel d'en étudier ces tendances et ces ruptures. Je ferai des coups de projecteur sur plusieurs choses. D'abord, les développements qui modifient la structure du monde de la mer en tant qu'espace d'échange. Ensuite, les visions que peuvent avoir certains pays, parce que chaque pays n'a pas la même vision sur ce qui se passe en mer. Et enfin, les risques et les menaces qui peuvent affecter non seulement les navires et les acteurs du secteur maritime, et là qui sont transnationales. Alors, dans les tendances et les ruptures de la maritimisation, il est intéressant de se pencher sur les visions que peuvent avoir les nations et dans un premier temps, quels sont les facteurs transverses que l'on rencontre, quels que soient les pays. Je vais en aborder quatre, très rapidement. Le fait que l'espace maritime permet l'affirmation de stratégies de puissance, la problématique de l'accès à la mer, c'est très important, les notions de frontières maritimes, et enfin, les disputes de souveraineté que l'on peut rencontrer en mer. Alors, regardons d'abord comment la mer, qui est un espace d'échange, on vient de le dire, et de ressources, est aussi le cadre d'expression de stratégie de puissance. Il y a deux principes de base en toile de fond, qui sont affichés sur l'écran. Le fait que la haute mer permet une très grande liberté d'action. En haute mer, chacun est à peu près libre de faire ce qu'il veut. De par son statut de res nullius, la chose de personne. Voilà, petite digression là aussi. C'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui définit les responsabilités des États en mer. Il y a les eaux intérieures, les eaux territoriales jusqu'à 12 nautiques, et ensuite, il y a la zone économique exclusive jusqu'à 200 nautiques. Et au-delà, c'est la haute mer, et il y a, entre guillemets, plus de réglementation nationale qui s'impose. Le deuxième principe de base, c'est la volonté donc légitime contre toutes les nations de protéger ou de valoriser leurs intérêts nationaux. Alors, de là découle une gradation des modalités permettant à une nation maritime d'affirmer sa stratégie de puissance en mer, et en particulier dans les zones qui lui sont sensibles. Et ça en passant par tous les degrés de la boîte à outils navale, que la boîte à outils navale permet, de la présence, du renseignement, du contrôle, de la menace jusqu'à la coercition, à l'intervention avec des moyens lourds, militaires. Enfin, dans certains espaces, notamment lorsqu'ils sont confinés, des nations peuvent avoir une stratégie maritime d'hégémonie, voire d'accaparement, on le verra tout à l'heure, avec un exemple bien précis, en considérant la mer en question comme un mare nostrum. Je pense que vous arrivez à traduire, même si vous n'avez pas fait de latin. C'est la version latine de la privatisation, en fait. Hein. Donc, au détriment de la communauté internationale, d'un espace maritime particulier. Alors, espace d'échange, espace d'expression de stratégie de puissance, espace réglementé et territorialisé, la mer est parfois disputée entre pays dont les prétentions s'imposent. Et il y a même des disputes dont vous n'avez peut-être même pas idée. Regardez celle-ci. Ces disputes donc peuvent être de façon très policée. Par exemple, il y a un différend entre la France et l'Espagne en Méditerranée qui ont défini, chaque pays a défini donc une zone économique exclusive qui chevauche celle de l'autre. Et la zone qui est en hachurée sur la carte, là, ici, elle est toujours revendiquée par les deux pays. Et c'est toujours en cours d'arbitrage. On ne sait toujours pas qui a compétence au niveau ZEE dans cette zone-là. Et ça, c'est les instances internationales qui étudient le cas et qui doivent trancher en faveur de l'un ou de l'autre. Et évidemment, si c'est une instance internationale de référence, pilotée par les Nations Unies, le pays qui sera dégoûté devra accepter la décision. Alors, un autre cas intéressant dont je vous ai parlé un petit peu avant, enfin j'en ai pas parlé, mais je vous ai dit qu'on en parlerait, c'est le cas particulier de la Chine en mer de Chine méridionale. Enfin, il n'y a pas que la Chine, il y a d'autres acteurs dans cette zone. Mais sur cette carte, vous pouvez identifier là une petite zone qui est ici. Vous voyez ce petit triangle là. Dans lequel il y a 6 pays riverains qui revendiquent la souveraineté de cette zone-là. Alors, ça crée évidemment beaucoup de tensions. Et ce cas d'école donne lieu donc à des manifestations qui peuvent être relativement agressives et créer des problèmes de sécurité. Je vous ai dit qu'on parlerait des visions nationales. On y est. Je vais me limiter à 4 coups de projecteur. Les pays les plus importants, 4 grandes nations qui jouent un rôle déterminant. Les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde. On va commencer par les États-Unis. Alors, les États-Unis ont souvent été comparés à une gigantesque île bordée par deux océans. Il est clair que ce pays a des intérêts sur la planète entière. C'est la première puissance économique, hein, de toute façon. Et fort logiquement, sa présence s'exerce sur toutes les mers du monde. Alors, la stratégie navale des États-Unis, elle est très diversifiée, dans la mesure où ce pays agit, selon les zones et les intérêts concernés, sur toute la palette que nous avons vue précédemment. C'est-à-dire, de la notion en matière de contrôle des espaces, jusqu'à la coercition. Et pour ce faire, ils ont un outil qui est extrêmement puissant, c'est l'US Navy. Et avec l'US Navy, ils sont capables d'agir de façon furtive ou de façon massive, vraiment, sur tout le spectre, selon le cas. Alors, les États-Unis n'ont pas de Mare Nostrum, comme je vous disais tout à l'heure, je vous en parlais, au sens strict du terme. Mais il est clair que deux zones maritimes d'inégale dimension sont au cœur de la stratégie directe. Il y a la zone Caraïbe, essentiellement parce qu'il y a énormément de trafic dans cette zone-là, et notamment de trafic de drogue, qui menace directement les États-Unis. Et la deuxième zone, mais là on passe à une autre dimension, à un autre niveau, c'est l'océan Pacifique, qui est le terrain de confrontation avec les puissances asiatiques, notamment la Chine. Enfin, citons l'enjeu tout particulier que représente pour les États-Unis le canal de Panama, qu'ils ont administré pendant presque tout le XXe siècle, ce qui n'est plus le cas. Je passe à la Russie, on traverse le pôle Nord, on passe par-dessus, et on s'intéresse donc à la Russie. Depuis toujours, et Pierre Legrand l'exprimait très bien, avec une grande clarté, la clarté qui lui était attaché. Le problème numéro un de la Russie, on l'a juste évoqué tout à l'heure, c'est l'accès aux mers chaudes. L'accès aux mers chaudes. Si vous voyez, vous imaginez la carte de la Russie, on la voit sur la carte du monde derrière vous, là. La Russie n'a pas d'accès aux mers chaudes. Elle est obligée d'emprunter des passages obligés. Et pour elle, c'est très contraignant. Donc ça, c'est un premier souci pour la Russie. Il ne vous a pas échappé que la Russie était de plus en plus active sur la scène internationale et manifeste avec toute la palette de sa stratégie de puissance. On a notamment noté un accroissement considérable des déploiements des flottes russes très au-delà de leurs espaces proches, en Méditerranée, en océan Indien, en Atlantique. Et de la même façon, mais ça vous ne le voyez pas et puis on n'en parle pas, les sous-marins russes font ressentir chaque jour davantage toute leur puissance et leur présence au large de nombreux pays et même du nôtre. Ce n'est pas un secret que je dévoile. Il y a régulièrement des sous-marins russes qui viennent au large de la France. Voilà. Alors, autre point important, la Russie ne considère pas qu'une mer soit son Mare Nostrum. Mais, avec la mer Noire, qui est un chaudron bouillonnant de rencontres entre l'Orient et l'Occident, il y a vraiment là un espace critique pour la Russie. Et c'est pour ça qu'ils ont la flotte de la mer Noire qui a été développée de manière à être beaucoup plus puissante que les autres marines de la zone et à être voilà, mais enfin elle a été contestée cette hégémonie entre guillemets maritime avec ce qui se passe en Ukraine. Rappelez-vous le croiseur Moskva, qui était le plus gros bâtiment et qui était le bâtiment amiral de la flotte de la mer Noire, a été coulé par les Ukrainiens. La Russie, un autre exemple, la Russie avait fait en 2017 une nouvelle démonstration de sa maîtrise des outils de puissance en tirant des missiles de croisière contre l'État islamique depuis la mer. Et autre illustration plus récente, donc de l'usage de la mer pour sa stratégie, la Russie verrouille désormais la mer d'Azov. Vous voyez où se trouve la mer d'Azov, vous avez la mer Noire, et puis vous avez la mer d'Azov qui remonte là entre l'Ukraine et la Russie. Et donc elle la verrouille désormais avec les événements qui ont eu lieu effectivement en Ukraine, et elle en dénie l'accès. Hein. C'est devenu presque une Mare Nostrum, là, en l'occurrence. Voilà pour la Russie. Maintenant, on va attaquer un gros morceau. Le cas de la Chine est très différent des deux précédents. Surnommé l'Empire du Milieu, hein, la Chine a toujours été, et avant tout, une puissance... On parlait de puissance maritime, et la Chine était plutôt une puissance terrestre, continentale. Voilà. Mais, depuis quelques années, la Chine, elle s'ouvre beaucoup plus à la mer, et elle y manifeste son intérêt de manière très visible. Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper dans mes boutons. L'affirmation de puissance maritime de la Chine se lie à la fois par le développement rapide de sa flotte. Vous avez vu rapidement, je vais le repasser, la flotte chinoise, elle a triplé en 20 ans. Elle se développe à une vitesse considérable, tant en qualité qu'en quantité. Évidemment, ça se fait en parallèle de sa puissance économique. Sa puissance économique grandit et sa flotte grandit d'autant. Mais on voit également que cette affirmation par la présence chinoise dans des zones qui leur étaient étrangères, il y a encore peu de temps. Voilà, là vous avez un des porte-avions. Les Chinois n'avaient pas de porte-avions. Là, ils en sont au troisième. Ils construisent le troisième. Les États-Unis ont 11 porte-avions. Les Chinois, le troisième. Et il y en aura d'autres par la suite. Voilà, donc là je vous disais que la Chine est de plus en plus présente loin de ses bases, et notamment en Méditerranée et en Atlantique. On voit des bâtiments militaires chinois, de plus en plus. Alors, on parlait de Mare Nostrum. Là, la Chine, elle considère comme son Mare Nostrum la mer de Chine méridionale. Vous voyez sur la carte, celle qui était présentée tout à l'heure, les différentes revendications. Hein, vous voyez ce trait vert. Ça, ce sont les revendications chinoises. C'est-à-dire qu'ils s'approprient quasiment toute la mer méridionale et toutes les îles qui sont présentes. Vous voyez l'archipel des Paracels ou l'archipel des Spratleys. Et bien sur ces îlots, les Chinois construisent des infrastructures, des pistes pour des avions, des pistes d'atterrissage, des moyens de surveillance. Ils installent des moyens de surveillance, de détection, voire des armes, des missiles. Voilà. Et ben, personne ne peut rien dire face à la Chine. Alors qu'il y a des pays comme les Philippines, comme la Malaisie, qui revendiquent aussi, notamment sur les Spratleys, leur droit de propriété sur ces îles. Mais il n'y a pas que la mer de Chine méridionale. Ça, disons que c'est la première action de la Chine sur le maritime. Le deuxième, voilà, vous avez une vue là sur les Spratleys. Et régulièrement, il y a des échauffourées entre les moyens navals des pays. Là, en l'occurrence, les gardes-côtes des Philippines et des Chinois. Vous voyez la différence de taille des bateaux. Bon, évidemment, les Chinois sont un peu plus costauds. Donc, on a parlé de la mer de Chine méridionale, mais il y a un autre endroit où la Chine porte son regard, et c'est l'océan Indien, où elle cherche à disputer le leadership d'une autre grande puissance qui est l'Inde. Et pour ce faire, elle installe des bases navales, des facilités, en coopération évidemment avec des pays. Donc elle recherche des coopérations avec d'autres pays qui ont besoin de moyens financiers. Et ce réseau de bases, il est plus connu sous le nom de collier de perles. Voilà, parce que ça fait une espèce de collier de perles. Et enfin, ça va s'afficher, la Chine met énormément de pression sur Taïwan, elle fait énormément d'exercices à proximité des côtes. Un jour, il ne faut pas se poser la question de se dire si est-ce que la Chine envahira Taïwan. Non, oui, la Chine, elle envahira Taïwan un jour. La question à se poser, c'est quand. Voilà. Ça, c'est une stratégie de très long terme, mais les Chinois, un jour, s'approprieront Taïwan. On verra ce que feront les États-Unis. Mais en tout cas, cette pression sur Taïwan, elle a un but, c'est d'avoir à nouveau un accès sur le Pacifique. Parce que vous voyez aujourd'hui sur cette vue que l'accès au Pacifique, il est bloqué par les Américains. Avec leurs différentes bases, que ce soit en Corée, au Japon, à Taïwan, aux Philippines, et puis enfin, surtout, jusqu'en Indonésie. Donc les Chinois, ils veulent se défaire de cette ceinture américaine et pouvoir avoir accès au Pacifique, pour pouvoir être en mesure de menacer les Américains avec leurs sous-marins nucléaires notamment, ce qui aujourd'hui est un peu compliqué. Je passe rapidement sur ce slide-là. Là, vous avez l'ensemble de la stratégie chinoise. Hein. L'influence chinoise se répand partout dans le monde. Et vous avez les différentes étapes. D'abord, sécuriser la mer de Chine. On vient de le voir. Ensuite, museler le Japon. Étouffer l'Inde, qui est son grand concurrent dans l'océan Indien, dans l'océan éponyme. Ensuite, affaiblir l'Europe, tout en vassalisant la Russie. Il n'a pas échappé dans l'actualité que les Russes et les Chinois avaient des liens assez étroits. Pardon. Mais c'est essentiellement pour affaiblir la Russie et quelque part la vassaliser. Et enfin, bien évidemment, le grand concurrent de la Chine, ça reste les États-Unis. Puisque les Chinois, leur but ultime, c'est de devenir la première puissance économique, ce qu'ils ont fait, mais évidemment les États-Unis ont repris leur trophée, mais ça reste quand même toujours l'objectif de la Chine, et c'est pour ça que la Chine étend au maximum son influence partout dans le monde, en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Autrement dit, la Chine, ça va s'afficher, non, je clique, veut devenir une thalassocratie mondiale, c'est-à-dire une vraie puissance maritime, si ce n'est la plus puissante. Vous avez vu tout à l'heure que ses moyens augmentaient considérablement. Aujourd'hui, la Chine, elle a plus de bateaux que les États-Unis, en nombre de bateaux. Pas forcément en tonnage, mais en nombre de bateaux, elle en a plus. Le troisième grand acteur, donc, c'est l'Inde. L'Inde n'est pas seulement un rival de la Chine, mais c'est aussi un grand pays émergent, devenu le plus peuplé du monde, et qui s'ouvre à une vocation océanique très, très marquée. Alors, au sens géographique comme au sens stratégique, l'Inde, elle est le pivot de l'océan qui porte son nom. Elle est au cœur d'une région qui est marquée par de fortes instabilités. Entre les volontés d'hégémonie d'autres puissances, la Chine, les États-Unis, comme on l'a vu, et les manifestations antagonistes d'un Moyen-Orient dominé par l'Arabie et l'Iran, et une Asie du Sud-Est aux grandes tensions, sans oublier l'Afrique et ses îles orientales, qui sont aussi des espaces où l'Inde exprime de manière croissante son intérêt. Juste un tout petit exemple, l'île Maurice. L'influence de l'Inde sur l'île Maurice est très importante, et on retrouve de plus en plus, notamment sur des îles qui dépendent de l'île Maurice, une présence indienne, l'installation de moyens militaires. Voilà, ça montre bien cette volonté d'influence sur la zone. Et évidemment, sans surprise, l'émergence de cette vocation océanique, elle se manifeste notamment par le développement de capacités navales modernes. L'Inde a de plus en plus de moyens navals, notamment porte-avions et sous-marins. Je rappelle que l'Inde a également acheté des Rafales français, des avions à la pointe de la technologie. Donc les Indiens disposent vraiment d'une palette d'outils pour affirmer sa puissance maritime. Et il y a même un programme pour un deuxième porte-avions, parce que pour l'instant ils en ont qu'un, de fabrication autochtone, c'est-à-dire de fabrication nationale, qui est en cours de définition, et qui serait à propulsion nucléaire. Voilà. Vous voyez un peu l'ambition de l'Inde, quand même assez conséquente.